Nous sommes en 1973 au Texas quand Mary Harris découvre dans son jardin une masse jaune qui, selon elle, ressemble à une omelette pas plus grosse qu'un cookie. Après l'avoir rouée de coups, de râteaux et recouverte d'herbicides, le lendemain la chose n'a pas disparu mais au contraire a doublé de volume. Elle appelle alors les pompiers qui tirent sur la bestiole, la brûlent et ce, toujours sans aucun effet. Puis, du jour au lendemain, la chose disparaît. Il n'en fallait pas plus aux Texans pour conclure au passage d'un extraterrestre. Cette histoire est en fait celle de la première apparition médiatique de Physarum polycephalum, autrement connu sous le nom de Blob, en référence au film de 1958 dont Steve McQueen fut la vedette.
Dave! Doc Hallen's been killed.
Doc Hallen, what happened?
It's over at his place. You gotta come now.
Now, wait a minute, Steve. Tell us what happened.
Well, I'm trying to tell you. Now, this thing had killed the doc.
But what was it? Stop with it, kid. Well, it's kind of like a mass that keeps getting bigger and bigger.
Nous sommes avec Audrey Dussoutour, chercheuse au CNRS, spécialiste des fourmis, mais surtout spécialiste du blob. Mais pourquoi le blob?
Alors c'est par pur hasard, c'était pas moi qui suis allée vers le blob, c'était mon directeur de postdoc, à l'époque je faisais un postdoctorat en Australie, qui cherchait un nouveau projet sur un unicellulaire et qui m'a dit « Oh, j'ai entendu parler d'un organisme super » et c'est comme ça qu'on a travaillé dessus. Mais au départ, ça venait pas du tout de moi, ça venait de lui.
Mais quel âge a-t-il, grand Dieu?
Quel âge? Oh, bien plus que ça.
Alors, c'est un organisme qu'on estime à 1 milliard d'années. Alors, bon, c'est pas très précis, hein, parce que c'est entre 800 millions et 1 milliard d'années. Alors, c'est par la datation de l'ADN moléculaire qu'on regarde ça, l'horloge moléculaire. Et du coup, ils pensent que c'est ça, ouais, 800 millions, 1 milliard d'années. Alors, c'est un organisme unicellulaire, donc composé d'une seule cellule, qui peut faire cette cellule jusqu'à 10 mètres carrés.
Je me sens grand comme une montagne.
On a trouvé un qui couvrait toute une forêt. Mais en réalité, il n'était pas en un seul morceau, mais c'était plein de petits morceaux qui appartenaient au même blob. Et ça couvrait toute une forêt entière.
C'est pas un animal, c'est pas un végétal, c'est pas un
champignon.
Qu'est-ce que c'est?
Physarum polycephalum est une espèce de myxomycète de la famille des Physaraceae.
Alors si on prend un blob et qu'on le coupe en deux, on a deux cellules. Parce qu'en fait, ça cicatrise automatiquement. Mais si on remet ces deux blobs ensemble, ils reformeront une seule cellule, parce qu'ils fusionneront. Immortel, c'est dans le sens du laboratoire. C'est-à-dire que dans la nature, il n'est pas du tout immortel, il y a plein de choses qui peuvent l'attaquer. Mais en laboratoire, si on lui donne à manger continuellement, et si on lui fait faire des petites dormances, donc pas vraiment dormir, hein, c'est des stades où il s'enkyste pour se protéger des éléments extérieurs. Voilà, c'est une forme d'hibernation. Là, il peut devenir immortel.
Devenir immortel, et puis mourir.
Alors oui, on a trois blobs au laboratoire, un américain, un australien et un japonais. Et il s'est avéré que nos blobs, on les a laissés forcément interagir entre eux, et que l'américain prend le dessus sur le japonais à chaque fois. En fait, il le cannibalise, et c'est pour ça que j'ai appelé ça la revanche de Pearl Harbor, parce qu'en fait, notre blob américain, il n'est pas super sympathique.
Où est-il?
On en trouve partout en France, il y a 300 espèces de blobs, ce que j'appelle des blobs, donc c'est des myxomycètes. Il y a 300 espèces différentes en France, on les trouve dans les forêts humides, quand il ne fait pas trop froid, parce que le blob, les blobs n'aiment pas ça. Et il faut que le terrain ne soit pas trop acide aussi. Dans les forêts de pins, ça va être un peu plus difficile d'en trouver, mais par exemple dans des chênaies, des choses comme ça. Mais même dans des jardins, des gens qui font la permaculture, des fois dans votre compost aussi.
Merci, c'est pas facile à trouver.
D'autres, c'est pas plus bête qu'autre chose, hein.
Il y a vraiment, disons qu'une prémisse de vie sociale, disons qu'il sait percevoir ses congénères dans l'environnement, il peut y aller vers eux ou s'en éloigner, donc c'est un choix qu'il prend. Donc, il sait interagir. Donc, il y a de l'interaction. Après, bon, la socialité, ça dépend de la définition qu'on va mettre derrière. Moi, je trouve que c'est un peu des prémices. C'est les premières interactions. Mais c'est comme l'intelligence. Dire, il y a des gens que ça, qui vont être choqués de dire que, par exemple, le blob est intelligent. Mais c'est toujours pareil. C'est toujours une question de définition. Moi, ma définition d'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Mais pour d'autres gens, ça va être beaucoup plus complexe que ça. Donc, oui, il y a une forme d'individualité et pour moi, une forme d'intelligence chez le blob.
Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
Je ne sais pas, il faudra que j'essaie.
Alors, l'habituation, c'est le fait d'apprendre à ignorer un stimulus qui est un peu gênant, mais qui est inoffensif. Donc, c'est le cas, par exemple, quand on s'habitue à une mauvaise odeur ou à un parfum très, très fort. Alors, si vous avez déjà porté du parfum, au début, vous dites « Ah, vous en rajoutez toujours un peu plus parce que vous ne le sentez plus », mais en fait, vous y habituez. Et donc, c'est une forme d'apprentissage extrêmement simple. Et du coup, on a appris au blob à ignorer des choses qu'il n'aimait pas. Et ça marche très bien chez le blob, il apprend à ignorer. Bah après, en plus, avec le blob, il y a plein de choses qu'il n'aime pas. Donc ça...
Il apprend vite.
C'est pas une mémoire en tant que telle, c'est ce qu'on appelle un peu une mémoire externe, un peu comme les fourmis qui laissent des pistes au sol. Bah, le blob, il va laisser un mucus, comme les escargots. Quand un escargot passe, on en voit une traînée, bah, ça fait pareil chez le blob. Ça fait une traînée et il n'aime pas sa traînée, donc il essaye d'éviter d'y repasser. Et du coup, ça fait qu'il évite de passer toujours deux fois au même endroit. Et du coup, il tourne pas
en rond. Oh merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Il nous balade depuis le début, il joue avec nos nerfs.
Alors, je ne sais pas s'il a conscience du temps, mais le blob est animé de rythme et on peut lui apprendre à anticiper des événements. Donc, il a beaucoup de rythme, le blob. Il a un rythme de mouvement, il a un rythme de croissance, il a un rythme de mitose, donc la division des noyaux à l'intérieur de cette cellule. Donc, il y a plein de rythmes qui s'ajoutent dans ce blob. Donc, il est temporel. Alors, en termes thérapeutiques, ça c'est souvent la question qu'on pose, à quoi ça sert le blob? Parce qu'il faut absolument que ça serve à quelque chose. Donc, en réalité, le blob, il a plusieurs utilités en recherche appliquée. La première, c'est qu'il peut accumuler des métaux lourds, donc des polluants. Donc ça, c'est bien pour dépolluer. Ensuite, c'est un prédateur de bactéries et de champignons, donc qui produit des antibiotiques et des fongicides. Donc, c'est intéressant. Et la troisième chose, c'est son réseau veineux, en fait. Donc, la cellule est animée d'un réseau veineux. Et cette morphogénèse, elle obéit aux mêmes lois que la vascularisation dans les tumeurs. Donc, il y a pas mal de scientifiques qui se concentrent sur cette morphogénèse du réseau veineux chez le blob pour l'utiliser comme un modèle pour des tumeurs. Il faut imaginer que le réseau veineux de Physarum polycéphalum, il est extrêmement optimisé. Et il forme, c'est des réseaux qui sont déformables, qui s'adaptent extrêmement rapidement. Donc, c'est vrai que pour le transfert d'informations, c'est très, très bon. Il y en a deux que j'identifierais comme vraiment les plus importants, l'argent, parce qu'il faut toujours de l'argent pour faire la recherche et on n'en a pas. Et le deuxième, pour moi, c'est le soutien technique à la recherche. Parce que les gens, ils voient la recherche comme les chercheurs, mais en réalité, dans les labos, il n'y a pas que des chercheurs. Il y a des assistants ingénieurs, il y a des techniciens, et il y a des gens sans qui la recherche n'est pas possible. Or, on n'a plus d'emploi pour ces gens-là. Et il y a de moins en moins de ces gens-là dans les laboratoires. Or, un chercheur ne peut pas fonctionner s'il n'a pas l'aide d'un technicien, d'un assistant ingénieur, ou d'une secrétaire, ou d'une comptable. Le chercheur, il ne peut pas faire tous ces travaux-là. Et du coup, maintenant, c'est ces gens-là qui sont sacrifiés en premier. Et c'est bien dommage. Alors, le CNRS est précieux, honnêtement. Moi, je trouve que c'est un organisme absolument magnifique, magique. Il n'existe qu'en France. C'est vrai que c'est une exception. Et j'espère que ça perdurera. Mais honnêtement, le CNRS offre de moins en moins de postes. Il est plus du tout une agence de moyens, etc. Donc je sais pas dans le futur qu'est-ce que va devenir le CNRS. J'espère pour moi, je suis aussi optimiste, j'espère qu'il perdurera parce que c'est vraiment un organisme qui fonctionne et il y a des belles découvertes qui se font au CNRS.
My name is Jane Goodall, my age is 80, my job is giving people hope.
Alors la différence de Jane, c'est qu'elle est sur le terrain, moi pas du tout, je suis vraiment une personne de laboratoire et c'est par choix. Parce que j'ai fait du terrain, comme elle a fait au départ, et finalement, je me suis aperçue que c'était pas du tout... c'est pas aussi idyllique que ce qu'on pourrait penser. Et moi, j'adore le laboratoire. J'aime être enfermée avec mes blobs dans mon laboratoire. Donc, je vais pas aller courir les blobs dans la nature. Je le fais des fois pour plus voilà, pour la curiosité. Mais honnêtement, je ne suis du coup pas la Jane Goodall du Blob, plutôt le pasteur du Blob.